vous l'avez peut-être rencontré il y a quelques années. Le docteur Chavagnac était donc à l'hôpital de Chalon-sur-Saône pendant un certain nombre d'années avant de partir sur Lyon. Et c'est lui qui a fondé, organisé, construit, créé le SAMU de Chalon. Donc il y a de sa part beaucoup d'expérience dans le domaine, évidemment, de même dans le domaine de l'anesthésie dont on va vous parler aujourd'hui. Et pour une autre raison, c'est qu'en fait, outre son métier, il a toujours voulu, en quelque sorte, rendre à son maître, le professeur Deleuze de Lyon, les hommages qui lui étaient dus, qui est un homme qui a joué un très grand rôle dans l'anesthésie. Et à partir du moment où il a pu s'arrêter de travailler, il a donc rédigé un livre auquel il fera allusion peut-être tout à l'heure, sur justement l'histoire de l'anesthésie. Alors depuis, il y a un certain nombre de conférences qui ont été faites un peu partout en France. Il a donc bien voulu venir vous en parler en essayant d'être le plus concis possible parce que c'est quelque chose qui est énorme. Voilà. Donc on le remercie de bien vouloir participer aux conférences de l'UTP. Et puis si vous avez des questions à lui poser sur ce qu'il va vous dire, sur ce que vous pouvez connaître de l'anesthésie, en tant que patient bien entendu, eh bien vous pouvez lui poser tout à l'heure. Voilà, je lui laisse la parole. Et puis tout à l'heure vous pourrez éventuellement échanger avec lui.
Oui, bonjour à tous. Merci Gilbert de ces paroles. Très, très aimable. C'est bien le moins que je vous devais de revenir vous parler de cette question après 20 années passées ici à Chalon-sur-Saône. D'ailleurs, il y a quelques amis de l'époque qui me font l'amitié d'être là aujourd'hui. Alors, quand effectivement j'ai proposé ce sujet donc à l'UTB, en fait, ça venait après une première conférence qui a eu lieu l'an dernier, donc au mois de novembre, pour le 60e anniversaire de la création de l'anesthésie en France. Alors, première question, 1948. Ah bon, ça date de 1948. On va y répondre tout à l'heure. Deuxième question, avec André Colla, Gilbert Durand, donc ceux qui s'occupent du programme, on dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre comme titre? Alors, on dit, bah, c'est tout trouvé, une invention. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je me promenais dans une librairie, fait un marchand de journaux, et je tombe sur ce numéro, donc il y a 6 mois de ça, les inventions qui ont fait avancer le monde. Ah, je me suis dit, est-ce que l'anesthésie en fait partie? Question, je me précipite, je le trouve à la page médecine, et ouf, il y a l'anesthésie.
J'avais eu peur. Hein.
Bon, donc on peut effectivement parler d'invention, puisque c'est dans le capital, donc on peut y aller. Alors ensuite, des drogues et des hommes, et bien c'est ce dont on va parler maintenant pendant une heure et quart. On se réservera un petit peu de temps à la fin pour bavarder, pour répondre peut-être à des questions, j'espère pas trop douloureuses ou des souvenirs trop pénibles pour les uns ou les autres. Mais pendant cette heure et un petit peu plus, je vais essayer de vous raconter cette histoire de l'anesthésie qui me paraît à moi exemplaire, qui est méconnue puisque tout le monde est convaincu qu'on a toujours tout endormi à toutes les époques. Et en fait, c'est complètement faux. Et pour reprendre cette phrase d'Auguste Comte, on ne connaît complètement une science que quand on en connaît l'histoire. Alors, c'est pas pour les élèves de terminale S, hein, dont on hésite un petit peu à leur reparler de l'histoire, mais c'est vrai que connaître l'histoire d'une science, et l'anesthésiologie en fait partie, ça a été effectivement une découverte pour moi à la fin de ma carrière, parce que jusque-là, je n'avais pas trop le temps de m'intéresser à ces questions. Je savais bien que c'était né du côté de l'Amérique, mais enfin, bon, sans plus. Et quand je me suis plongé dans ce qui s'était passé, j'ai trouvé que ça méritait effectivement bon, d'être dit, d'être raconté et d'être écrit. Alors, vous voyez qu'on part de loin, puisque on part de l'Antiquité. De l'Antiquité, et on commence par les champs de bataille, parce qu'en fait, les premières traces hein, du démarrage de la chirurgie, des débuts de la chirurgie, ce sont bien sûr sur les champs de bataille. sur les champs de bataille, on trouve chez les Assyriens, chez les Égyptiens, on trouve des traces d'actes de chirurgie, quelquefois faits avec un petit peu de sédation. Alors on peut se demander avec quoi. Eh bien, vous avez Galien et Hippocrate qui nous donnent quasiment déjà la réponse. Hippocrate disant Divinum est opus sedare dolorem. Alors je ne suis pas latiniste, mais enfin je crois deviner à peu près ce que ça veut dire. La sédation de la douleur est d'origine divine. Dites-nous. Hein, bon, donc il n'y a rien à faire. On attend que Dieu veuille bien soulager les souffrances de ce bas monde. Et puis, à sa droite, il y a un dénommé Galien, le père de la pharmacie, de la pharmacopée. Et en fait, les anciens, donc du temps de l'Antiquité, avaient quand même assez vite compris, et dans les différentes peuplades, qu'en prenant certaines décoctions de plantes diverses et variées, on arrivait à soulager la douleur. Alors, à tout seigneur, tout honneur, bien sûr, le pavot, cette fleur magnifique, papaver somniferum, qui déjà, avec son nom, comporte tout un programme, papaver somniferum, qui fleurit dans les plaines d'Afghanistan, et qui était donc très bien connu dans tout l'Orient et le Moyen-Orient. Et à partir de cette plante, donc, on faisait une décoction qui soulageait fort bien. Donc c'était déjà les opiacés, donc extrêmement efficaces. Celle-ci, le cannabis, le chanvre, qui lui aussi remonte à la plus haute antiquité. Et on trouve chez les Scythes l'administration de chanvre, donc de cannabis, sous forme de fumigation, qu'on administrait au cours des rites funéraires pour que les âmes des défunts partent en paix dans un nirvana éventuel. Donc le cannabis avait déjà été bien repéré. La mandragore. Alors la mandragore, elle est intéressante. Elle est très intéressante parce que c'est une plante qui a plein de propriétés, c'est une racine plus exactement, qui a plein de propriétés, aussi bien sédatives, hypnotiques, puisque même Shakespeare y fait allusion quand Cléopâtre supplie donc son serviteur, donne-moi de la mandragore, mais pour quoi faire, maîtresse? Eh bien, pour que je puisse dormir un temps long, pour oublier le départ d'Antoine. Enfin voilà, donc vous voyez que la mandragore, le jus de mandragore, était administré là aussi depuis la plus haute antiquité comme sédatif, hypnotique, anxiolytique. Et c'est très puissant, on obtient un sommeil de plusieurs heures avec la mandragore. Alors la mandragore, elle a été très vite qualifiée de plante des sorcières. Et le Moyen-Âge, c'est assez curieux d'observer que donc, de la plus haute antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les plantes, donc sédatives, anxiolytiques, analgésiques, on ne disait pas comme ça, mais toutes ces plantes, pour soulager les souffrances, étaient très largement répandues. Et puis au Moyen-Âge, je ne sais pas si sous le fait de l'Église ou de l'Inquisition, tout ce qui était un peu magique, etc., a tout de suite été accusé des pires maux. Alors vous voyez déjà que c'est cette espèce d'anthropomorphisme de la mandragore qui est sous forme de sorcier ou de sorcière. On dit que Jeanne d'Arc, en montant sur le bûcher, avait un petit peu de mandragore dans ses poches ou dans ses autres choses. Pour que le bûcher soit moins pénible. Et donc, je répète, toute cette période a donc connu finalement toute une pharmacologie, toute une botanique, qui sont finalement les sources, j'enfonce une porte ouverte, qui sont les sources de beaucoup de nos médicaments, et pas seulement en anesthésie, mais en cardiologie, etc. Il y a énormément de plantes qui ont débouché sur des produits et sur des extraits extrêmement efficaces. Alors, comment les administrer? Alors, je répète, fumigation, décoction, par un peu différentes voies. Et on trouve sur ce bas-relief égyptien, c'est un temple qui n'est pas très loin d'Assouan, où des archéologues ont pensé qu'en bas, vous voyez, tout en bas de la stèle, ils pensent que c'est une éponge. Je m'en remets à eux, mais ils disent, c'est une éponge, et vous voyez tout autour des instruments de chirurgie. Je vous rappelle qu'on est en Haute-Égypte. Donc quelques millénaires avant notre ère, donc vous voyez des instruments de chirurgie qui ne sont pas très loin de ce qu'on voit encore sur les tables d'opération. Et alors cette éponge en bas signifie une chose très importante, c'est que l'éponge en fait était imprégnée et imbibée donc de jusquiame, de mandragore, de pavot, d'extrait d'opium, et était administrée aux patients donc, qui pouvaient, grâce à cette éponge, voire atténuer ses souffrances, voire carrément dormir. Autre référence célèbre, eh bien, le Christ sur la croix, lui apporte une éponge. Alors c'est vrai, quand on lit les évangiles, on voit que finalement, c'était, paraît-il, que du vinaigre. Mais il est très probable, et là aussi il y a d'autres écrits qui le prouvent, qu'en fait on donnait aux suppliciés des extraits sédatifs de plantes pour atténuer un petit peu les souffrances des malheureux. Et cette reproduction nous le rappelle. Alors on fait un bond de 12 siècles, excusez-moi, mais bon, il faut quand même qu'on avance un peu. On fait un bond de 12 siècles et on arrive à Salerne. On arrive à Salerne, qui est un joli petit village au sud de Naples, et qui a été la première école et faculté de médecine en Europe, on va dire dans le monde, puisqu'à l'époque, bon, il y avait, en dehors du monde occidental, il n'y avait pas de faculté organisée. Alors, cette faculté de médecine était très intéressante, puisque d'une part, elle était ouverte aux hommes et aux femmes, ce qui, là aussi, va disparaître, puisque pendant des siècles, seuls les hommes seront habilités à apprendre la médecine et la chirurgie. Et il faudra attendre pratiquement, si ma mémoire est bonne, la fin du 19e siècle, pour voir en France une femme devenir médecin, ce qui était absolument inadmissible et inimaginable. Donc Salerne a été un creuset de grands esprits qui ont repris les travaux de Galien et d'Hippocrate. Mais là, en matière d'anesthésie, il n'y a encore pas grand-chose que ce que je vous ai déjà évoqué. Alors on arrive là, enfin, à la première lumière au XVIe siècle. Excusez la médiocrité de la reproduction, mais c'est la seule image de Théophraste Bonpast von Hohenheim. Alors vous savez bien sûr de qui je parle. C'est Paracelse. Bon, Paracelse qui est à la fois un grand médecin, un grand voyageur, un grand érudit, qui cherche un grand alchimiste, qui a cherché par tous les moyens un certain nombre de choses, et il s'intéresse en particulier à ce qu'on appelle la liqueur des Hollandais à l'époque, donc on est au XVIe siècle, la liqueur des Hollandais, qui est un mélange de différents produits, et il voulait voir un peu ce que ça faisait. Il voit sa volaille dans la basse-cour, et il mélange cette liqueur des Hollandais au grain qu'il donne à sa volaille. Et puis, elle se met toute à dormir. Pas de peau, il n'a pas compris que ça pouvait être intéressant pour l'humanité. En fait, c'était un mélange d'éther, enfin une forme d'éther, qui se dégageait donc de cette liqueur des Hollandais. Et c'est d'ailleurs son élève lui-même qui raconte l'histoire des poulets de Paracelse, qui s'était mis à dormir. Il y en a qui font démarrer l'anesthésie avec lui, mais enfin on va peut-être pas trop insister sur cette époque qui est épouvantable. Je crois qu'il faut bien comprendre que 16e siècle, 17e siècle, on fait la chirurgie, j'allais dire quasiment comme ça, avec effectivement un petit peu de jusquiame, de pavot, voilà, tout ce qu'on peut donner. Et alors cette gravure est très intéressante, puisque sur la droite vous avez le malheureux à qui procède une amputation. On va dire que l'anesthésiste entre guillemets lui met la main sur la tête pour l'encourager, c'est un geste extrêmement affectueux et amical, mais bon, ça va pas bien au-delà. Et alors j'aime beaucoup cette gravure, parce qu'à gauche, vous avez la solution qui est effectivement la pharmacie, et vous voyez un autre opérateur ou grand prêtre qui donne une décoction. C'est-à-dire qu'on dirait, mais quel dommage que ce monsieur ne donne pas la décoction à celui qui est en train de souffrir. Mais non, surtout pas, puisque la douleur est d'essence divine. Et que plus on supporte la douleur, plus on a des chances d'arriver au ciel rapidement. Plus on est courageux. Et la douleur est quelque chose d'extrêmement important, puisque ça signale aussi quand les choses vont pas bien, on a mal, donc il ne faut surtout pas supprimer la douleur. Donc cette gravure, vous voyez qu'on est 16e, 17e, ben voilà, on fait des amputations à la demande, comme ça. Alors, en dehors, je m'excuse de cette image atroce, donc je vous impose, mais bon, on est en anesthésie, en chirurgie. Mais après, ça va mieux. Alors, ça, effectivement, on croit rêver. Quoi. Bon, vous voyez à peu près une craniotomie, donc une trépanation, comme ça. Alors, si je vous montre ça, c'est parce que, pour l'instant, on est resté autour du bassin méditerranéen, mais il semble, j'ai fait pas mal de recherches sur cette question qui m'a beaucoup intéressé, j'en ai pas l'absolue certitude, mais il semble qu'au Pérou, du temps des Incas, donc des siècles quand même assez anciens, des chirurgiens ou des opérateurs, appelons-les comme ça, qui mâchaient de la feuille de coca, s'étaient rendu compte que leur salive était anesthésiante. Alors ça, c'est quand même une observation tout à fait admirable et extrêmement pertinente. Et il semble, là aussi je dis il semble parce que les archéologues ne sont pas tous d'accord, que pour anesthésier la tranche de section, hein, ici de la trépanation, et ben, ils salivaient, ils envoyaient de la salive et ils crachaient dessus, hein, pour endormir la peau. Alors sur le plan de l'asepsie, ne me posez pas trop de questions. Encore que le cuir chevelu, ça s'infecte quasiment pas. Hein. Tous ceux qui ont le crâne ouvert à droite et à gauche savent très bien que ça, en fait, ça s'infecte jamais. Voilà, j'espère que mes confrères médecins ne vont pas trop me contredire. Mais c'est vrai que le cuir chevelu, bon, on met un point prof, et ça ne s'infecte pas. Donc on peut imaginer effectivement le coup de la salive, le coup de la feuille de coca qui insensibilise. Ah, là, il y a peut-être quand même une idée assez géniale. Voilà, je livre ça à vos réflexions. Alors, bien sûr, à l'autre bout de la planète, en Chine, ils n'ont pas attendu non plus les grands esprits occidentaux pour s'occuper d'anesthésie et d'acupuncture. Il faut quand même rendre hommage à cette technique et à cette méthode. Pour avoir moi-même vécu à Lyon une chirurgie du rachis, pas pour moi, un type sur la table, une chirurgie du rachis assez lourde, uniquement analgésié par acupuncture, j'avoue que j'en croyais pas mes yeux et ma foi était quand même sérieusement ébranlée. C'est des conditions très particulières, c'est de l'acupuncture avec une stimulation électrique. Bon, la personne à qui ça s'adressait avait passé toute une journée à méditer, à se mettre en condition et à accepter, hein, l'idée d'être sur le ventre avec la colonne ouverte sur une longueur à peu près comme ça. Si c'est pas moi qui lui avais tenu la main pendant l'anesthésie, je ne crois pas que ça le fait pas pendant l'anesthésie, pendant l'opération et pendant l'acupuncture, je ne le croirais pas. Mais je l'ai vu et j'ai toujours gardé la feuille d'anesthésie, si je puis dire. Voilà, et ça s'est bien terminé. C'est vrai que quand cette jeune femme est descendue de la propre opération en tenant ses rotons, en tenant ses bras, dans un silence, bon, voilà. Donc l'acupuncture, ça marche. Hein, tout le monde a des souvenirs d'émissions de télévision où on voyait de la chirurgie, hein, césarienne, etc., qui se fait sous acupuncture en Chine. Voilà. Alors on arrive enfin à la fin du XVIIIe siècle avec un Allemand qui a vécu aussi à Vienne, qui a vécu à Paris, c'est un dénommé Mesmer. Alors, le dénommé Mesmer, il faisait du magnétisme. Et il avait toute une clientèle à Paris qui lui était relativement fidèle et il faisait des séances de magnétisme. Il y avait surtout des dames, alors on prenait pas mal mes dames, mais il semble quand même que l'hypnose, le magnétisme, les forces supérieures de l'esprit, ça marche très très bien avec les dames. Alors il avait toute une clientèle qui venait se précipiter donc dans son cabinet. Pour avoir des séances de magnétisme. Et il se trouve qu'au musée d'histoire de la médecine de Lyon, on a le seul baquet, hein, qui a traversé les siècles et qui est exposé. Donc voilà, il fallait tenir les poignées métalliques, et Mesmer, d'où l'expression le mesmérisme, hein, qu'on retrouvera un petit peu après. Voilà le baquet de Mesmer, donc, où les dames tombaient en pamoison, semble-t-il. Bon, voilà, inconsciente, enfin dans un état semi-comateux. Simplement, ce petit document, parce que je ne réalisais pas encore, je vous dis jusqu'à ces dernières années, que par exemple, ce qu'on appelait la chirurgie de la taille, en fait, c'est pour tailler les calculs dans la vessie. Il y avait beaucoup de... La nourriture était quand même assez riche, et il y avait beaucoup de lithias, ce qu'on appelle des calculs donc, dans les reins et dans la vessie. Napoléon III, hein, on est mort entre autres. Et à l'époque, le chirurgien se posait pas tellement de questions. Il installait donc le malheureux en position gynécologique et pouf, hein, à travers le fondement, comme on dit, hop, il allait jusque dans la vessie, il taillait les morceaux de calcul et il enlevait tout ça. Voilà. Bon. Alors, il faut quand même bien réaliser que à l'époque, les chirurgiens étaient d'une habileté tout à fait exceptionnelle parce qu'il fallait qu'ils aillent extrêmement vite. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de bataille contre la douleur. Il ne faut pas croire que les chirurgiens étaient insensibles ou mettaient des boules guillesse pour ne pas entendre les hurlements, mais en fait, il fallait qu'ils aillent en quelques minutes, on va en reparler avec le baron Larrey, il fallait qu'en quelques minutes, l'opération soit terminée. Et c'est ainsi que Talleyrand, qui souffrait d'un mal de poitrine, d'un abcès vertébral important, le chirurgien l'avait assis sur une chaise, bon, on allait gratter les vertèbres comme ça. Et alors Talleyrand a eu ce mot magnifique en disant « Mais savez-vous, monsieur, que vous me faites très mal ?» Voilà, alors, les guerres napoléoniennes, là aussi, la rapidité était une condition de survie, hein, des malheureux sur le champ de bataille, et Larrey, Percy, Desgenettes, hein, on fait merveille sur tous les champs de bataille pour amputer, secourir et faire tout ce qu'ils pouvaient. C'est vraiment le premier service de santé militaire des armées napoléoniennes qui était sur tous les champs de bataille. Il faisait une désarticulation de hanche en 2 à 3 minutes. Il faisait une amputation de genou en moins d'une minute, ligature comprise. C'est-à-dire que c'était vraiment des virtuoses, hein, de bistouri. Alors, en général, le malheureux perd des connaissances sous l'effet de la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on avait quand même, disons, à notre disposition à l'époque? Il y avait le froid. Aujourd'hui, ça va très bien faire l'amputation dehors. Et si, la bataille d'Anoskova, ils se sont rendus compte que le froid était un excellent anesthésiant. Il y avait l'alcool. Alors, l'alcool sous Napoléon, évidemment, c'était le cognac. Bon, mais le cognac était réservé aux officiers. Voilà, l'homme de troupe n'avait pas droit à la rasade d'alcool pour supporter l'opération, voire être carrément endormi, puisque l'alcool est un excellent antihypnotique, analgésique, anxiolytique, enfin il a plein de propriétés. Et les hommes de troupe, souvent leur disaient, bon, au moment de faire l'amputation, on leur faisait serrer un morceau de bois, ou alors ils avaient la pipe à la bouche. D'où l'expression « casser sa pipe », c'est quand le malheureux expirait, la pipe tombait à terre et se brisait. Voilà. Donc, vous voyez que c'était quand même assez dramatique et assez épouvantable. Donc, sous le baron Larrey. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la même année que la bataille d'Austerlitz, c'était en 1805, le dénommé Serre Turner a synthétisé, a extrait l'alcaloïde du pavé, a extrait la morphine. Donc, vous voyez qu'on... On commence à entrevoir peut-être des solutions pour venir au secours des blessés et également des femmes en couche, hein, où il y avait aussi une mortalité importante. Il faut quand même savoir qu'il y avait pratiquement un soldat sur deux qui mourait entre les mains des chirurgiens. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 50% de mortalité dans cette chirurgie, qui était une chirurgie de sauvetage et rien d'autre. Il y avait aussi le garrot pneumatique qui s'était rendu compte qu'en comprimant les vaisseaux et les artères à la racine du membre, on obtenait un certain degré d'anesthésie, le mot est faible, mais ça améliorait. Donc, le garrot, le froid, l'alcool, vous voyez que, voilà, la morphine dont je vous parlais, donc c'est 1805. Hein, donc, vous voyez qu'il y a la morphine. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière avant d'attaquer la naissance de la DCI générale, parce que dans les années qui précèdent, autour de 1777-1778, il y avait en Angleterre un dénommé Davy, Humphrey Davy, qui était un jeune médecin qui s'est passionné pour le protoxyde d'azote. Et c'est Marie-Thérèse Cousin, qui est une historienne férue de l'histoire de l'anesthésie, qui dit que c'est une superbe occasion manquée, parce que Humphrey Davy s'est fait arracher une dent sous protoxyde d'azote. Je vous rappelle qu'on est en 1777-78. On est encore loin de l'anesthésie générale, mais Humphrey Davy, donc en Angleterre, dans le pays de Galles, voilà, inhalait du protoxyde d'azote. Donc en fait, tout existait. Et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que les produits existaient. Le protoxyde d'azote en Angleterre, la morphine en Europe, puisque c'est Turner, donc l'Allemand, qui avait isolé la morphine. On se rend compte qu'en fait, tout existait, mais il faut aller aux États-Unis pour voir enfin naître l'anesthésie générale. Alors, vous allez me dire, bon, ben, l'anesthésie générale, il y a quelques grands savants qui s'est penché sur la question, on s'est réuni, on a dit, tiens, on va peut-être quand même commencer à endormir les gens. Mais pas du tout, vous voyez, c'est au cirque que ça s'est passé, parce que, je répète, le protoxyde d'azote, donc le nitrous oxyde, ou gaz hilarant, là au film, gaz, et bien ça amusait les foules. Donc c'était une espèce de cirque ambulant qui se promenait avec du protoxyde d'azote. On faisait respirer aux gens, là, comme si aujourd'hui j'étais venu avec. Alors là, on vous en fait respirer 30 gallons, vous voyez, qui veut respirer, voilà. Bon. Et à Hartford, dans le Connecticut, il y avait un dénommé Horace Wells, qui était chirurgien dentiste. Qui un soir en famille, on va aller hein, comme on va sur les manèges, on va aller voir ce qui se passe. Et puis donc la foule est rassemblée, on fait respirer le protoxyde, allez, qui veut venir respirer le gaz, là vous allez tous vous mettre à rigoler, etc. Et puis il y en a un qui se porte volontaire, donc il va sur l'estrade, et puis bon, il respire ses 30 gallons de protoxyde d'azote. Et puis il commence à danser, à gesticuler, à se ricaner, etc. Et puis il redescend et pan, il tombe et il s'ouvre assez profondément la jambe. Puis il continue, hop, et il vient s'asseoir à côté d'un chirurgien dentiste qui s'appelle Horace Wells, qui a 28-29 ans. Et Horace Wells, qui est chirurgien dentiste, donc tous les jours entend les hurlements de ses patients, se retourne et lui dit, il attend que monsieur aille. Et ses esprits, il dit, mais vous avez vu votre jambe? En particulier, oh, ma jambe, profonde en taille, il dit, mais vous n'avez rien senti? Et Horace Wells se dit, ben voilà, si ça marche pour une plaie profonde de la jambe, pourquoi ça ne marcherait pas pour les dents? Et le lendemain, il achète donc quelques gallons de protoxyde d'azote, il va dans son cabinet dentaire. Et que croyez-vous qu'il fut? Eh bien, il le respire et il dit à son assistant, tu m'enlèves une dent. Alors ça, c'est aussi une des grandes constantes qu'on va voir tout au long des décennies suivantes, c'est que pratiquement tous ceux qui ont travaillé sur des nouveaux produits, les ont essayés d'abord sur eux. Ce qui témoigne d'un altruisme quand même assez rare. Donc Horace Wells, eh bien, il essaye sur lui. Donc son assistant l'arrache la dent, et puis aura un soin de se réveiller, et alors, ben c'est fait. Si ça y est, je suis riche. Parce qu'on est aux États-Unis, terre d'entreprise, etc. Il dit, voilà, ça y est, il rentre chez lui, il y a sa femme, on va acheter une maison, etc. C'est formidable, les enfants, on est sauvés. Et alors, mon Horace Wells, donc il fait, voilà, Horace Wells, un beau jeune homme, Horace Wells continue, sa clientèle commence à grandir, donc il endort les gens au protoxyde d'azote, il extrait des dents, etc. Et puis, il se dit, je ne vais quand même pas garder ça pour moi, on est dans le Connecticut. Il connaît à Boston un dénommé Warren, un chirurgien célèbre, donc au Massachusetts General Hospital. Et il va voir Warren, il se présente, et en janvier 1845, Il arrive donc à l'hôpital. Warren dit, voilà, dans la salle, il dit, qui est-ce qui veut se faire enlever une dent? Il paraît que ce chirurgien dentiste nous dit que il endort les gens. Voilà. Est-ce qui est le volontaire, etc. Il y a un type qui descend, hop. Mon Horace Wells lui fait respirer du gaz, du son protoxyde d'azote. Malheureusement, est-ce qu'il en met assez? On ne sait pas. Est-ce que le type était particulièrement récalcitrant? J'en sais rien. Il prend son davier, il commence à remuer la dent. Est-ce qu'il résiste un peu trop? Enfin, toujours est-il que ça dure un tout petit peu trop longtemps. Et quand il finit par arracher la dent, le type pousse un hurlement et tout le monde s'esclaffe et sous les colibets, le malheureux Horace Wells doit quitter la salle. Tout le monde dit, Richard, la dent, tu rigoles avec ton protoxyde d'azote, ça ne marche pas du tout, etc. Alors Horace Wells, il est très triste. Il est très triste et il rentre chez lui, il retourne à Hartford, sa femme lui dit, mais oui, tu vois, mais tes histoires de protoxyde d'azote, de gaz hilarant, ça ne marchera jamais. Or, dans l'assistance, ce jour-là, il y avait un de ses anciens associés, William Morton, qui était aussi chirurgien dentiste, et qui n'a pas perdu une miette de la séance. Il se dit, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. On est donc en 1845-46, et il se dit, là, lui, il n'a pas réussi, mais moi, je vais y arriver. Il va voir un dénommé Jackson et il lui dit, voilà, le gaz hilarant, le protoxyde d'azote, il lui dit, moi j'essayerais plutôt l'éther sulfurique. Bon, il y a que ça ne tienne. Et pendant pratiquement 6 mois, le dénommé Morton va endormir, en plus de lui-même, pratiquement tout ce qui lui tombe sous la main. Hein, les bagnoles de sa femme, les poulets, les abeilles. Enfin, il essaye... Avec l'éther sulfurique, d'endormir tout ce qui traîne autour de lui. Sa femme dit, ses vêtements puaient l'éther, c'était épouvantable. Le soir, j'allais au fond du jardin, je me trouvais écroulé par terre, endormi. Je finissais par m'inquiéter pour sa santé. Et jusqu'au jour où Morton dit, ben ça y est, je crois que j'ai trouvé. Ça marche pratiquement à tous les coups. Dans son cabinet dentaire, il fait quelques essais, là encore, avec un de ses assistants, la clientèle commence à venir, il flaire la bonne affaire, et il va à Boston, puisque lui-même était pas loin de Boston, donc il retourne voir Warren lui dit, oui, bon, attendez, il y a déjà votre collègue qui est venu avec un gars, c'est pas, oui, mais moi, c'est très différent, etc. Et Warren, bon, se fait un petit peu tirer l'oreille, et finalement, rendez-vous est pris, pour le 16 octobre 1846, et il dit, d'accord, allez, on va faire une opération, cette fois-ci on ne va pas arracher une dent, on va faire une vraie opération avec votre procédé, venez à 9h30 le 16 octobre 1846. 9h30, personne, l'amphithéâtre est bondé, hein, l'amphithéâtre qui existe toujours, n'est-ce pas? Quelqu'un qui était récemment, qui me fait l'amitié d'aller à Boston, au Massachusetts General Hospital. L'amphithéâtre existe toujours. Il est 9h30. Tout le monde est... Bon, ça s'est su hein, qu'on avait fait une opération hein, avec un produit extraordinaire. 9h30 sonne, toujours pas de Morton. Et le chirurgien Warren, cette phrase historique dont on mesure l'étendue, si Monsieur Warren est en retard, c'est qu'il est absent. Confondant de bon sens. À ce moment-là, la porte s'ouvre. Morton, tout essoufflé, arrive avec un petit appareil sous le bras. Warren lui dit, voilà votre opéré, un dénommé Gilbert Abbott. Voilà l'opéré, il s'agit d'une tumeur vasculaire, un angiome de la région latérale du cou, donc quelque chose d'assez important, et Warren lui dit, Monsieur Morton, allez-y. Morton, très calme, tout le monde en regarde, très calme, applique son appareil sur le visage de Gilbert Abbott, respirez lentement, ça, c'est très sûr de lui, hein, comme il avait endormi je ne sais combien de, hein, de personnes, d'animaux, les pagnoles, etc. Il se dit, ça va marcher. Il l'applique. Au bout de quelques minutes, il dit à Warren, vous pouvez y aller. Mon Warren approche, incise, il ne se passe rien. Il continue, il fait toute son opération, ça prend 5 à 10 minutes, dans un silence plombé. Il suture tout, c'est quand même une tumeur vasculaire, il suture tout, il referme, on attend quelques minutes, on dit ça y est, il est mort. Gilbert Abbott ouvre les yeux, Warren lui dit alors, vous avez senti quelque chose? Il dit non. Sous un tonnerre d'applaudissements, donc Morton a réussi la première anesthésie chirurgicale au monde. C'est la première anesthésie chirurgicale au monde. Et Warren, cette fois-ci, a une phrase quand même. Hein. Ceci n'est pas, this is not a humbug, hein, ce n'est pas un charlatan, ce n'est pas une supercherie. Donc il lui donne la caution de son anesthésie. Alors, sur ce tableau, il y a quand même quelque chose, c'est l'appareil que tient Morton à la main. Et c'est là son génie. Parce que faire respirer de l'éther, du protoxyde d'azote, etc., ça c'était, j'allais dire, presque à la portée un petit peu de tout le monde. Mais Morton, en fait, depuis des mois, essayait de trouver l'évaporateur, l'inhalateur de gaz. C'est-à-dire quelque chose qui délivrait une quantité donnée de gaz anesthésiant dans des proportions tout à fait précises. Et je crois que j'allais... Voilà, voilà l'appareil de Morton. Alors, évidemment, c'est rudimentaire, mais vous voyez qu'il y a l'éponge qui délivrait, donc qui était saturée en éther sulfuré, qui délivrait l'éther avec surtout deux valves, une valve de va-et-vient. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui? Hein, sur nos appareils d'anesthésie, on a des valves de va-et-vient. C'est-à-dire qu'il avait tout inventé l'idée qu'effectivement, l'arrivée d'air, la sortie, ce que le patient inhalait, et c'est là qu'il est son génie. Et c'est en ce sens qu'il a inventé, hein, au sens vraiment créatif du terme, il a inventé quelque chose, il a apporté effectivement, il a apporté donc au monde, enfin, hein, l'anesthésie générale chirurgicale. Alors malheureusement, ça se termine très mal, non pas pour lui, mais pour Horace Wells, qui effectivement est effondré, parce que son ancien assistant, son ancien collaborateur, a trouvé le remède et le miracle. Et alors Horace Wells va avoir une fin assez épouvantable et assez triste, qui justifie donc le titre, hein, de notre conférence, des hommes, hein, parce que le pauvre Horace Wells, effondré, ruiné, il va se mettre à vendre des tableaux, des canaries, hein. C'est moi?
Non. Ah. Non. Voilà, il suffisait de...
Que personne ne sorte. Donc le malheureux Horace Wells, donc se met à vendre des canaries, il fait n'importe quoi. Il laisse son épouse, il finit à New York dans les bas-fonds, il jette de l'acide sulfurique au visage d'une prostituée, il se retrouve au poste, il est mis en garde à vue, et là, il se suicide. Alors il se suicide, et c'est là où on voit, je vous ai mis cette image, parce qu'elle démontre que la difficulté des recherches documentaires dans le domaine historique, parce qu'elle est complètement fausse, cette image. Hein, et c'est une belle gravure pourtant. Alors qu'il soit mort, bon, ça c'est acquis. Mais un, au poste de police de New York, vous imaginez, dans le Bronx, il y a peu de baignoires. Ensuite, le malheureux s'était ouvert l'arcade pleurale. Alors, celui qui a... Alors, l'arcade pleurale, c'est ici, hein, c'est vers l'artère fémorale, bon, ce qui est plus rapide, hein, qu'au niveau ici de l'artère humérale, au niveau de l'avant-bras. Il ne s'est pas du tout taillé les veines, donc il s'est ouvert l'artère fémorale, donc c'est allé très vite. Donc, là, le lieu du suicide, donc, est stupide, il est faux. Alors par contre, en bas, il a effectivement mis sur son visage un flacon rempli de chloroforme. Chloroforme, voilà, chloroforme qui venait d'être trouvé aux États-Unis. Il avait 33 ans et il est mort absolument tragiquement. Et alors curieusement, il a sa statue à Paris. Il a sa statue à Paris, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que c'est lui qui a inventé l'anesthésie, avec le coup du protoxyde d'azote, bon, qui malheureusement s'est mal terminé. Et alors, au Square des États-Unis, à Paris, donc dans le 16e arrondissement, il y a sa statue. Par contre, Morton, sa statue, elle est à Boston. Hein. Voilà, donc historiquement, tout le monde s'accorde donc à donner à Morton donc la primeur donc de cette invention. Alors, c'est aussi très, très curieux, c'est la rapidité avec laquelle l'anesthésie à l'éther va faire le tour au moins du monde occidental. Parce qu'en fait, de l'éther, il y en avait partout. En fait, tout le monde s'en servait. Hein. Et on s'en servait d'ailleurs en particulier, j'ai omis de vous dire, mais à Boston, il y avait entre autres des soirées un peu animées où on sniffait l'éther, ce qu'on appelait des éthers froliques, hein, où dans la haute société, on respirait donc de l'éther. Donc en fait, l'éther, c'était un produit extrêmement connu, extrêmement courant. Il suffisait, entre guillemets, d'avoir les appareils. Et alors, quand vous voyez par rapport à l'appareil de Morton, vous voyez en dessous, il y a marqué 1847. C'est-à-dire que là, on est quelques mois après l'invention de Morton, hein, à Boston, et vous voyez que les fabricants ont déjà considérablement fait évoluer la fameuse sphère remplie d'éther de Morton. Et c'est la maison Charrière à Paris, qui est une des grandes maisons de matériel chirurgical, qui avait inventé. Alors, des inhalateurs à l'éther, il va y en avoir partout. Il va y en avoir dans toute l'Europe, tous les pays, en quelques mois, l'anesthésie chirurgicale va s'installer, prendre fait et rang donc dans la chirurgie, et faire rentrer donc l'anesthésie générale dans la chirurgie. À Lyon, c'est Amédée Bonnet. En Angleterre, il y a un dénommé Simpson et John Snow, un autre Anglais. Simpson est un Écossais. Alors lui, il va découvrir le chloroforme. Donc on est toujours en 1847, mais que la même année, on va trouver deux produits. Et Simpson, un peu comme ce qui s'était passé à Boston, mais il va essayer tous les produits, mais les plus invraisemblables. Hein, tous les butanes, le propylène, le propane, tout le monde respire de tout. Et le soir, en famille, il fait respirer à tout le monde des gaz. Et un jour, il tombe sur le chloroforme. Je me dis, mais non, le chloroforme, ça ne va pas marcher. Et boum, c'est une des invitées qui dit, oh, je suis un ange, et pauvre, qui tombe par terre. Et c'était la première anesthésie au chloroforme. Donc avec succès. Et alors le grand mérite de Simpson, c'est de l'avoir introduit en obstétrique. Et il a failli être excommunié pour ça, tout simplement parce qu'il osait endormir les femmes qui accouchaient. Tu enfanteras dans la douleur. Là encore, on retrouve l'Église. Et il était très mal vu, Simpson. Et on doit en fait à la reine Victoria, qui était lucide, d'avoir accouché du petit Léopold sous chloroforme, c'est-à-dire qu'elle a convoqué donc Simpson. Finalement, d'ailleurs, c'est John Snow, un autre médecin, qui va administrer le chloroforme, parce qu'elle a quand même attendu quelques années avant d'accoucher sous chloroforme. Et c'est l'accouchement à la reine, hein, donc grâce au chloroforme, qui va définitivement installer l'anesthésie. Malheureusement, la suite. Bon, la reine Victoria ayant accouché. Donc, la reine Victoria a accouché, mais avec le chloroforme, malheureusement, arrivent les premiers morts. Parce que le chloroforme est un produit redoutable. Et je vous ai ramené ici, vous voyez, février 49, le premier mort, enfin c'est pas le premier mort français, hein, il y en avait déjà eu un autre, mais le dénommé Barrier, qui était donc chirurgien en chef à l'Hôtel Dieu de Lyon, décrit, enfin je vous passe tous les détails de l'article, mais il décrit donc le premier mort par chloroforme. Alors ça a beaucoup impressionné les Lyonnais, et alors le chloroforme était beaucoup plus puissant que l'éther, beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus dangereux. Hein. Et on va mettre pratiquement plus de 50 ans pour comprendre ce qui se passait. Parce que Anna Greener, le premier décès au chloroforme qui s'est produit en Angleterre, elle a été foudroyée. C'est-à-dire qu'en pratiquement une minute, elle est décédée avant même, c'était pour un angle incarné, à peu près, petit geste. Et oui, elle est peut-être très craintive, on m'a dit si, je le reforme, ça marche, c'est formidable, tu auras pas mal d'un an. Et boum, en une minute, elle est décédée. Et ce premier décès, donc lié à l'anesthésie, donc d'Anna Griner, donc était lié au chloroforme, ce qu'on appelle aujourd'hui la syncope adrénalino-chloroformée, mais comme on n'utilise plus le chloroforme, donc la cause est entendue. Mais ça a provoqué évidemment beaucoup de frayeur, parce qu'il y avait un enthousiasme considérable pour l'administration d'éther et du chloroforme, et puis boum, on est mort. Alors, bon, on s'est dit, voilà, hein, puis où est-ce qu'on va, hein. Et les Lyonnais donc, sont revenus à l'éther, et les Parisiens ont gardé le chloroforme, hein, premier combat, les premières luttes entre l'éther et le chloroforme. Et la voie intraveineuse, est-ce qu'elle existait? Eh bien, elle existait, oui, puisque oui, sur cette gravure très ancienne, qu'on pouvait administrer un certain nombre de produits par voie intraveineuse. Et c'est, on doit à Charles-Gabriel Pravaz, encore un Lyonnais, je m'en excuse, hein, mais bon, c'est lui qui a inventé la seringue et l'aiguille creuse. Charles-Gabriel Pravaz, et vous voyez que sur cette gravure, première seringue de Pravaz et aiguille creuse, fabriquée par Charrière, et c'est encore lui, 1852. Hein. Vous voyez qu'on n'est pas loin du tout, hein, de la découverte de l'anesthésie par inhalation, mais l'anesthésie intraveineuse donc est une réalité. Alors ça, je vous devais bien ce document, puisque je le dois au musée de Tournu, à Montbellet. Là aussi, ça rend modeste, hein, sur la chirurgie, sur les inventions. Eh bien, on a découvert que du temps des Carolingiens, l'aiguille creuse existait déjà, et on a expliqué que c'était pour l'opération de la cataracte. Donc, vous voyez qu'on a retrouvé ça au fond de la Saône, complètement par hasard, et c'est des plongeurs donc, qui ont retiré cette trousse précieuse qui est exposée au musée Greuze de Tournu. Donc, on voit effectivement des pièces, et donc on pouvait aspirer à travers les aiguilles. Donc, l'invention de l'aiguille creuse, c'est pas tout à fait Pravaz, donc, puisque, je répète, du temps des Carolingiens, on en retrouvait. Donc c'était utilisé pour l'opération de la cataracte, Montbellet Tournu, hein, c'est pas bien loin. Alors on reste quand même dans la région pour aller se promener du côté de Saint-Julien en Beaujolais, c'est la Bourgogne, on ose à peine le dire ici, hein, du sud, le grand sud, hein. Il y en a qui confondent le Beaujolais et le Bourgogne, je sais bien, c'est une honte. Enfin bon, toujours est-il qu'on est à Saint-Julien en Beaujolais, et là on arrive dans la maison d'un certain Claude Bernard. Alors Claude Bernard, eh bien, il est né là, une maison de vigneron, au premier étage de cette petite maison, tout à fait modeste. Alors Claude Bernard a eu, si on a, oui, si je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite, Claude Bernard a eu, et c'est étonnant l'histoire, Claude Bernard, quand même, je vous la raconte là encore, des hommes et des drogues. Claude Bernard, donc, qui est né dans cette petite maison de vigneron, à 18 ans, est apprenti pharmacien à Vaise. Dans une petite pharmacie, il n'y a pas si longtemps que ça, elle existait encore. Était apprenti pharmacien. Il travaillait, je crois qu'il avait un jour de repos par mois. Et il passait ses nuits à écrire des pièces de théâtre. Et puis il était tout content. Il y a une première pièce qui a un petit succès du côté belge. Et puis il écrit Arthur de Bretagne, grand brin. Hein. On est donc dans les années 1830 à peu près, 1830-1840. Et puis, mu par un désir de monter à la capitale, il part avec son manuscrit sous le bras, et à 20 ans, il se retrouve à Paris, donc vers un grand critique dramatique. Il lui montre Arthur de Bretagne, et le type lui dit « C'est pas très bon, hein. Vous avez aucune chance, faites donc médecine. » Et voilà un critique d'art qui a quand même pratiquement sauvé la physiologie non seulement française et européenne, mais quasiment mondiale, parce que cette petite maison, j'y ai croisé des Japonais. Ça convient du monde entier. Hein. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ne savent même pas que Bernard est né à Saint-Julien-en-Beaujolais. Allez-y, parce que cette maison est absolument extraordinaire. Et c'est là que Claude Bernard, donc, c'est pas là qu'il a fait ses études de médecine, bon, il les a quand même faites à Paris. Et après, vous savez l'immense carrière qu'il a fait. Et alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'en matière d'anesthésie, il a tout inventé. Vous voyez qu'il endormait lui aussi les lapins, les chats, les chiens, enfin tout ce qui lui tombait sous la main. Voilà une muselière pour chiens qui est assez étonnante. Il a écrit d'admirables choses sur les anesthésiques et sur l'asphyxie, mais pratiquement, allez, 50 à 100 ans, beaucoup trop tôt. Et personne ne l'a cru, en tout cas les chirurgiens lui ont dit, mais enfin, occupez-vous donc de vos lapins, de vos chats, de vos chiens, au lieu de vous occuper, enfin on ne va pas quand même tout mélanger, et allez utiliser des produits pour l'anesthésie, et entre autres le curare. Parce que Claude Bernard donc, avait reçu un mélange de curare qu'il avait extrait, il avait essayé sur la grenouille, évidemment, et il avait démontré le mécanisme d'action des curares en disant c'est sur la plaque motrice, c'est-à-dire que ça n'est ni le nerf ni le muscle qui est touché, mais pile entre les deux. Et Claude Bernard avait raison, mais là encore une centaine d'années trop tôt, puisque les curares ont été introduits chez l'homme en 1943-44. Je vous rappelle qu'on est en 1840, donc 100 ans avant, il savait déjà qu'on pouvait utiliser le curare en chirurgie. Quand les animaux, chats, chiens s'arrêtaient de respirer, ben, ils les ventilaient. Donc il avait construit une machine. Là encore, les respirateurs sont arrivés dans nos blocs opératoires 100 ans plus tard. Voilà. Et vous voyez que le poison indien avait quand même de belles années futures, puisque c'est 100 ans après que Tintin a découvert le curare. Voilà. Une dernière petite image très, très émouvante, c'est probablement le premier tracé au monde d'une défibrillation cardiaque à l'heure où on en trouve dans les supermarchés, dans les salles de sport, etc. Et c'est un grand bien qu'il puisse y avoir des défibrillateurs pour tout le monde, et pas seulement pour les premiers secours ou les services de cardiologie. Eh bien, ce premier tracé que je n'ai pas réussi à dater a été enregistré par Claude Bernard, donc là encore, un siècle et demi, avant que les défibrillateurs arrivent. Alors, tout y est, il fait respirer du protoxyde, N2, donc asphyxie, là c'est la tension artérielle en bas, qui s'effondre, fibrillation ventriculaire, il ventile quand même un petit peu le malheureux animal à qui il pratiquait tout ça, il ventile un petit peu, il fait le massage cardiaque. C'est évident, on est en 1840. Jude et Couvenhoven qui vont réinventer le massage cardiaque externe, chez l'homme, c'est 1960. C'est-à-dire qu'il va s'écouler plus de 100 ans avant que quelqu'un se dise « Mais dans le fond, le père Claude Bernard, c'était pas mal. » Massage cardiaque 4 minutes, on défibrille et ça repart. Je répète, on est en plein 19e siècle, on est au milieu. Alors Claude Bernard va avoir une fin d'existence. Bon, c'est pas Horace Wells, mais pas loin. Sa femme divorce. Elle crée la Société pour traiter des animaux, effarée de ce qu'il faisait de tous les animaux de la basse-cour. Ils avaient 4 enfants, il y a 2 garçons qui meurent en bas âge, il n'y avait plus que 2 filles. La mère monte le collet à ses filles et elle part à Paris et laissant Claude Bernard tout seul vivre ses derniers jours. Donc dans cette maison que je vous encourage vivement à aller visiter puisque c'est un joli petit musée. Il y a peu de choses relatives à la science, mais il y a toute la vie personnelle de Claude Bernard et entre autres toute sa correspondance avec une madame Rafalovitch qui était en quelque sorte la madame Anska de Claude Bernard, sachant que Claude Bernard a inspiré également Zola, à travers le portrait du docteur Pascal, qui est à peu près, très peu près, le portrait de Claude Bernard. Voilà. Alors, on va finir en 19e siècle, on va arriver quand même au 20e, avec une thèse très intéressante d'un dénommé Destot, qui est né à Dijon, voilà en Bourgogne, mais quand même, dans le coin, il y a quand même eu des gens pas mal. Et Destot, qui viendra des premiers radiologues. Un immense précurseur de la radiologie, fait sa thèse sur la mortalité d'un service de chirurgie des hôpitaux de Lyon. Alors pourquoi je vous rapporte cette thèse? Mais parce qu'elle est très intéressante, tout simplement, qu'après l'anesthésie, il y a eu beaucoup plus de morts. On peut dire, c'est l'anesthésie. Non. On mourait encore plus pour une raison simple, c'est que les chirurgiens, quand ils se sont retrouvés libérés des contraintes de la douleur, ils sont hardis, ils ont commencé à ouvrir le ventre, parce qu'à l'époque, avant l'anesthésie, on n'ouvrait pas trop le ventre, parce que c'est quand vraiment mais rien d'autre à faire. Donc, il commence à ouvrir les ventes, et là, c'est l'infection qui domine, la gangrène, la pourriture, etc. Et il y a une mortalité considérable liée à l'infection, et on est toujours dans un opéré sur deux qui meurt. Donc, vous voyez que quand on rentre en salle d'opération, on n'était pas très sûr d'en ressortir. Voilà. Et alors, heureusement, Lister arrive. Cette fois-ci, c'est en Angleterre. Lister arrive avec l'antisepsie et, bien sûr, Pasteur. Pasteur avec l'asepsie, la stérilisation. Et là, c'est Lister accueillant Pasteur au bras de Carbeau. Enfin, on est entre gens de bonne compagnie. Donc, à l'Académie des sciences, Lister et Pasteur qui tombent dans les bras l'un de l'autre, les deux grands piliers l'infection. Alors la première moitié du 19e, c'est effectivement entre le masque et la piqûre que ça va se jouer, puisqu'au début du siècle, il y a deux événements majeurs. Premièrement, la découverte des barbituriques en Allemagne, en 1903 ou 4 à peu près. Et puis on a nommé Freud, mais ça c'est un tout petit peu avant la fin, avant le début du 20e siècle. Freud, on va dire Freud, qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Parce que Freud consommait de la cocaïne pour son usage personnel. Je ne me répéterai pas. Mais Freud consommait un petit peu de cocaïne, s'en trouvait fort bien. Mais il s'est rendu compte que ça avait des propriétés anesthésiantes sur la peau et les muqueuses. Et il s'est dit, tiens, on peut peut-être en faire quelque chose. Et puis tout ça se passe dans un mois d'août, il préfère aller voir sa belle, en fait, tu vas voir, je suis en pleine forme grâce à la cocaïne, etc. Et il laisse son assistant dénommé Karl Koller, qui était étudiant en ophtalmologie, qui lui va s'administrer lui-même une petite décoction sur la cornée. Il se regarde dans une glace, il a mis de la cocaïne, il met le doigt dans l'œil, mais comme ils sont courageux quand même, et il sent rien. Il dit youpi! Et bien, deux mois après le congrès d'ophtalmologie de, je ne sais plus où, Heisenberg, je ne sais pas où, il fait un tabac parce qu'il vient de découvrir l'anesthésie de contact, l'anesthésie à la cocaïne. Donc, il va complètement transformer l'ophtalmologie et permettre donc de la chirurgie qu'on n'osait pas faire auparavant. Donc, vous voyez comment Freud, on rejoint un petit peu Mesmer. Et puis, bien sûr, la cocaïne, ben, on va l'injecter partout, y compris dans le rachis. C'est-à-dire qu'on vient de découvrir l'anesthésie locale et loco-régionale. Et donc, tout le monde, Tuffier à Paris, est un des promoteurs donc, de la rachicocaïnisation. Et alors, c'est un énorme avantage, cette anesthésie locale et loco-régionale, c'est que le chirurgien peut se débrouiller tout seul, il peut se passer l'anesthésie, parce que c'est embêtant, c'est gaz, c'est masque, etc. C'est compliqué, quelquefois ça meurt. Alors que là, hein, je pique, je sais, je fais des anesthésies locales. On peut enlever l'estomac sous anesthésie locale, il suffit d'infiltrer tout, pour que les gens soient à peu près d'accord, mais ça marche très très bien. Alors que pendant ce temps, l'anesthésie des gaz se traîne. Voilà le catalogue 1905, un malheureux petit. Voilà tout ce qu'il y avait en anesthésie. Un petit masque, le chloroforme, et puis c'était fini. Juste un truc pour tirer la langue, pour ressusciter, quand ça allait mal. Donc on prenait la langue, on tirait. Ça s'appelle l'extraction rythmée de la langue. Oui, non, mais ça ne vous est pas. Alors, ceci étant dit, j'ai trouvé des trucs comme ça dans les tables d'anesthésie quand j'ai commencé. Je ne comprenais pas à quoi ça servait. Voilà, j'ai jamais fait ça. Traction rythmée de la langue, paraît que ça ressuscite. Je ne sais pas. Voilà. Alors, 1907-1908, Ombrédane, un chirurgien orthopédiste parisien qui a un éclair génie. Qui invente, lui aussi, invente un appareil. Alors vous voyez qu'on n'est pas très loin de Morton, hein, 50 ans plus tôt, un appareil, une chambre d'inhalation à l'éther, qui est à la fois génial, parce que n'importe qui peut s'en servir, et en même temps qui va être dramatique pour l'anesthésie française, parce que précisément n'importe qui peut s'en servir. C'est-à-dire que c'est le chauffeur, c'est la sœur, c'est l'infirmière, c'est le brancardier, c'est l'externe de première année de médecine, et vous avez tous les étudiants en médecine, dès qu'ils commençaient, pof, allez, tu prends l'ombre d'âne, tu t'accroches ici, vous voyez que les deux petites poignées là, on s'accroche au masque, tu tiens vigoureusement. Il y a une sœur qui disait, on compte 3 AV, 2 patères et une manette d'or, vous voyez à peu près. On met de l'éther, il y a une double chambre, on ouvre une valve, on met un petit peu d'oxygène quand ils sont vraiment trop noirs. Et il y a surtout ce sac d'inhalation qui est une vessie de porc, vous voyez que c'est quand même assez sobre. une vessie de porc donc, qui est utilisée dans lequel l'oxygène et l'éther se mélangent harmonieusement et amènent une anesthésie. Alors, on rit, mais en fait, c'est un appareil extrêmement sûr. Il n'y a quasiment pas eu de décès avec ça. Et l'ombre et d'âne, alors moi, je ne m'en suis jamais servi, mais j'ai des confrères de ma génération qui s'en sont servis. C'est-à-dire jusqu'en 1960, dans les hôpitaux et les cliniques de France, vous trouviez des ombres et d'âne. Voilà. Donc l'ombre et d'âne va connaître une carrière magnifique. Alors voilà une très belle photo de 1914 que j'aime beaucoup. Vous voyez à droite une jeune personne qui tient le fameux ombre et d'âne. Au centre, Léon Bérard. Et à sa droite, un personnage. Donc je ne vous ferai pas deviner de qui il s'agit. Il s'agit d'Auguste Lumière. Je vois pas bien le rapport. Mais Auguste Lumière, toute sa vie, a regretté de ne pas être médecin. Oui, un petit peu comme Pasteur qui a dit « si j'avais l'honneur d'être chirurgien ». Voilà, oui, la médecine, c'était un truc magnifique pour Auguste Lumière. Alors, il passait ses journées à l'Hôtel Dieu, puisque ça, cette photo, donc, je la dois au patrimoine de l'Hôtel Dieu. Et Auguste Lumière, qui était un chimiste, et après, ils n'ont pas inventé que le cinéma, ils ont fait énormément de choses. Il y avait des usines en chaire où ils fabriquaient, entre autres, le Tulgra Lumière, hein, qui va se développer donc, pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, il venait donner des petits conseils de chimie, machin, etc. Donc, Auguste Lumière donc, a hanté l'Hôtel Dieu de Lyon. Et puis, la guerre de 14, alors, immense champ de bataille où la chirurgie et un petit peu l'anesthésie vont faire des progrès. Je passe René Leriche et la douleur. Hein. On en dira peut-être deux mots après. René Leriche qui a tout inventé en matière de chirurgie de la douleur, qui était né à Rouen, donc là encore dans la région, une infirmière qui tient le fameux ombre et d'âne. Mais vous voyez, ça c'était hier. Hein. Voilà, on ballonnait à la main quand ça s'arrêtait de respirer. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, en Angleterre, eh bien, les anesthésistes qui depuis longtemps, des médecins anesthésistes, puisque la Société Royale de Chirurgie donc anglaise avait dit « oulala, c'est trop dangereux ce truc-là, il faut que ce soit des médecins ». Donc il y avait une société de médecins anesthésistes en Angleterre à la fin du 19e siècle, alors qu'en France, on en était encore loin, mais ils fabriquaient des appareils magnifiques hein, qui donnaient l'anesthésie avec un canister bon, pour absorber la chaux sodée, tout ça est très bien. Et puis 1934, le miracle arrive avec les barbituriques donc, qui avaient été synthétisés au début du siècle. Et vous voyez qu'en 1934, Lévipan sodique, donc un des premiers barbituriques utilisés en anesthésie, arrive, c'est la fameuse piqûre. Hein, comment voulez-vous être endormi par piqûre ou par masque? Donc le match est ouvert, ils ne sont pas emballés, ça c'est une 25 séries de patients endormis. Ils disent, oulala, c'est dangereux, c'est... Alors, bon, il y a bien des tests, vous voyez, à peu près la précision, qu'est-ce qu'un homme vigoureux ou un homme faible, qu'est-ce qu'une femme vigoureuse ou faible, j'en sais rien. Vous voyez quand même que la marge, bon, hein, de différence, c'est quand même pas gigantesque, mais ça vous donne une idée en 1934 de ce qui se passait dans les blocs opératoires. Donc c'est vrai que les barbituriques, eh ben, les gens s'arrêtent de respirer. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien voilà. Et donc les chirurgiens disent, oulala, attention, hein, la piqûre, l'anesthésie intraveineuse, c'est dangereux. Et Robert Monod, donc, crée en 1936 la Société d'études d'anesthésie et d'analgésie. Alors ce qui est absolument extraordinaire, vous n'en douterez pas forcément le seul, mais c'est que c'est la première société savante dans une spécialité sans spécialiste, puisqu'il n'y avait pas de médecin. Donc les chirurgiens créent une société d'études d'anesthésie sans anesthésiste, puisqu'il n'y en avait pas. Voilà, donc c'est la seule spécialité médicale, je ne crois pas me tromper, qui a eu sa société savante avant qu'il y ait des spécialistes. Donc c'est pour la petite histoire, mais c'est assez étonnant. Alors voilà, donc on arrive enfin au bout avec l'anesthésie moderne, masque, piqûre, match nul, hein, on en est là aujourd'hui, où on utilise bien sûr les deux techniques. Alors on retourne sur les champs de bataille, hein, puisque c'est après le débarquement des Américains donc en Afrique du Nord, donc au Maroc, ils arrivent à Alger, ils ont dans leur camion toutes ces machines magnifiques que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors les médecins, les chirurgiens regardent, ils disent, mais c'est quoi ça? Ben ça c'est pour faire de l'anesthésie. Ben oui, mais qui est-ce qui... Ah ben c'est des médecins. Ah bon? Et les chirurgiens commencent à se dire, mais dans le fond, ça serait peut-être bien qu'il y ait des médecins qui s'en occupent. Et on voit effectivement fleurir dans les troupes de l'armée française et de l'armée anglaise quelques vocations
entre autres un dénommé Ernest Kern,
qui va passer le premier diplôme français, mais à Londres,
Jean Lassner, qui était à Saint-Pierre-et-Miquelon, Vourche, qui va débarquer quand même, excusez du peu, le 6 juin 44 avec le commando Kieffer, hein, un médecin donc, qui avait interrompu ses études médicales, qui sera un des grands noms d'anesthésie française. Louis Larin, qui dans les Pyrénées passe des documents compromettants au nez à la barbe donc des Feld Gendarmerie. Et puis Maurice Carra, qui fait le coup de feu, place Vendôme, donc, et qui participe entre autres à la libération de Paris, c'est-à-dire qu'il y a 4, 5, une petite poignée, une dizaine de médecins qui comprennent que les Américains et les Anglais, donc les troupes anglo-américaines, possèdent avec l'anesthésie moderne, et entre autres l'anesthésie par inhalation, et les barbituriques qu'ils amènent dans leurs trousses, possèdent la clé de la chirurgie du futur, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne faisait pas, entre autres le thorax. On a fait de la chirurgie thoracique sous anesthésie locale, aussi étrange et impressionnant que cela vous paraisse. On parachutait les appareils d'anesthésie. Voilà ce qui était parachuté sur les lignes arrières, donc pour les hôpitaux de campagne. Et puis arrive enfin ce que je vous disais au début, 1848. Ça y est, enfin, les chirurgiens, l'université se dit on va peut-être quand même créer un diplôme d'anesthésie et réanimation. Donc le 18 novembre 1948, donc il y a 61 ans, le diplôme. Alors c'était sommaire, 70 conférences qui durent un trimestre. Vous voyez que ça n'allait pas chercher bien loin quand même. Mais il y avait quand même un stage pendant un an comprenant des démonstrations sur l'animal et sur l'homme. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de cette époque. On faisait beaucoup de médecine expérimentale. C'était un peu l'héritage de Claude Bernard où on apprenait sur l'animal. C'était peut-être pas si mal que ça. Brigitte Bardot, je m'excuse, mais bon, ça a peut-être évité quand même qu'il y ait des expériences fâcheuses chez l'homme. Voilà, un appareil magnifique. Alors, il faut quand même bien réaliser que les premiers anesthésistes, donc l'an dernier, on avait invité Germaine Fraisse, qui a plus de 90 ans aujourd'hui, qui était allé en Angleterre acheter avec ses sous le premier appareil d'anesthésie qui a été utilisé chez Santi à Lyon, au pavillon haut, à l'hôpital Edouard-Herriot. Et comme il y avait le contrôle d'échange, elle avait démonté l'appareil, elle l'a mis dans deux valises, c'était un peu la traversée de Paris. Elle s'est baladée dans le métro avec ses appareils, heureusement ça ne faisait pas tic-tac. Mais heureusement que personne n'a ouvert parce que c'était formellement interdit. Alors on a un mal fou là encore à réaliser que les gens se promenaient. Voilà. Et alors ils faisaient le tour de la ville avec leur vélo. Vous voyez que le chloroforme là encore avait encore de belles années devant lui puisque même le Lotus bleu y fait référence. Voilà. Pourquoi il y en a qui ne connaissent pas le Lotus bleu? Ah, est-ce possible? Voilà, alors ça aussi une image assez bon pour fixer un petit peu les idées. Alors vous allez me dire c'était en URSS, mais en URSS c'est une médecine et une chirurgie tout à fait. Et bien vous voyez qu'en 1951, et bien les trois quarts de la chirurgie se faisaient sous anesthésie locale et loco-régionale. Là encore, bon, on a un petit peu de mal à le croire. En Indochine, vous voyez l'anesthésie intraveineuse, bon c'est cette petite table modeste, bon, alors on est effectivement en chirurgie de guerre, enfin, ils en ont sauvé, et puis on commence à les évacuer. Et là encore, je vous parlais tout à l'heure de Maurice Carra, et bien les premières évacuations médicales, sanitaires, aériennes ont eu lieu donc pendant ces conflits, donc Indochine et Algérie, et c'est comme ça que sont nés les SAMU, qui existent aujourd'hui, Maurice Carra ayant inventé tout ça. Petite parenthèse, dans les pays nordiques avec la polio qui va être déterminante sur le plan de la réanimation des respirateurs. 1952, vous voyez la courbe des admissions au Beckdam Hospital, et là ce sont des anesthésistes danois qui se sont relayés jour et nuit pour ventiler toutes les victimes de la poliomyélite antérieure aiguë qui entraînait des arrêts respiratoires, des encombrements dramatiques. Les infectiologues disaient vous perdez votre temps, et il ventilait à la main parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et là encore, c'est le génie d'un dénommé Ibsen et la ténacité aussi qui a démontré que c'était, il ne mourrait pas de la polio, mais il mourrait d'asphyxie. Et c'est là qu'a été inventé le premier respirateur artificiel, l'Einström, qu'on a bien connu, n'est-ce pas, bricoleur, de vous rappeler quelque chose. Et oui, non, parce que là, on arrive à... Ça y est, hein, on y est, là. Hein. Moi, je me suis servi de cet appareil pendant des années en réanimation. C'était la Mercedes des respirateurs. Évidemment, ça fait sourire les jeunes, parce qu'ils disent, voilà, que c'est ce machin préhistorique. Mais Lundström, hein, est un respirateur génial. Donc, c'est grâce à ça qu'on a sauvé des centaines et des milliers, hein, de personnes et d'enfants, puisqu'à l'époque, on avait que le poumon d'acier. Hein, on ne va pas partir sur la réanimation, mais voilà également le premier respirateur transportable de Maurice Carra. Donc, le respirateur à pose réglable, qui pouvait aller dans les ambulances et qui n'avait comme source d'énergie que de l'air comprimé, de l'oxygène comprimé. Et donc, on pouvait transporter. Et les premiers poliomyélitiques ont été transportés de l'hôpital Claude Bernard à l'hôpital Necker, premier transport sanitaire secondaire en France en 1956, grâce à ce respirateur et grâce à Maurice Carra, voilà, qui nous a quittés il y a 3 mois seulement. Et puis arrive l'anesthésie intraveineuse, la fameuse neuroleptanalgésie, analgésie, hein, grâce entre autres en France à Raymond Deleuze, qui était mon patron. Et vous voyez, 1953, donc là, tout frémit et tout va s'emballer, puisqu'on découvre les neuroleptiques, hein, qui sont à eux seuls une histoire tout aussi passionnante, hein, avec Delay et Deniker, surtout Henri Laborite, alors qu'il va se heurter aux partisans du classicisme anglo-saxon à Paris. Ça va être des luttes épouvantables, hein, entre les tenants et les aboutissants de, hein, du dogme de l'anesthésie, donc volatile, au gaz, etc., et puis les partisans de la piqûre au neuroleptique, vous savez, ces états intermédiaires, on ne sait plus très bien, hein, qui on est. Même les Russes vont s'en servir, hein, comme sérum de vérité. Enfin, c'est épouvantable. Voilà. L'anesthésie gazeuse, là, on est dans les années 60, avec les sondes d'intubation, parce que maintenant, on contrôle la respiration. Maintenant qu'on a des respirateurs, on peut ventiler les patients. On a toujours les différents gaz et les différents évaporateurs. Vous voyez que ça n'a pas tellement changé. Hein. Les moyens de surveillance, ben, sont très simples. Hein. Vous voyez, il y a une seringue avec l'aiguille qui est dans la veine. On pouce, on endort, on a la main sur le pouls. Et voilà, et ben, c'est ce que j'ai connu en débutant ma carrière. Il n'y avait rien d'autre, on n'avait que ça. Voilà une salle de réveil. Vous voyez que c'est bien modeste. Des années 60, l'infirmière chargée de la réanimation. Il y a une perfusion. Bon. C'est déjà pas mal. Hein. Surveille constamment le pouls et la tension des opérés. Et malheureusement est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire des décès. Des décès, on va dire, inacceptables et vraiment le tournant de la responsabilité en anesthésie, c'est 1967, juillet 1967, le décès d'Albertine Sarrazin. Les plus anciens doivent se souvenir de cet écrivain maudite, hein, qui avait écrit entre autres l'Astragale. L'Astragale étant un petit os du talon, hein, qu'on peut se fracturer en sautant du mur de la santé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et l'Astragale, donc, c'était un grand écrivain qui avait malheureusement une tuberculose disséminée. Il avait entre autres une tuberculose rénale, et le chirurgien se propose de lui enlever le rein. À l'époque, on était en donc 1967, ça se passe dans une clinique du côté de Montpellier. On l'installe sur la table d'opération, l'anesthésiste arrive, voilà, il découvre, hein, le chirurgien lui dit endormi, à l'époque on ne discutait pas, hein, endormi, il l'endort et ne se réveillera pas. Hein. À partir de là, pendant 6 ans, il va y avoir une lutte, vraiment une série de procès en première instance, en appel, en cours de cassation. Et il y a une deuxième juridiction en appel qui va statuer. Alors c'est très intéressant, je vous dis, sur le plan jurisprudentiel, puisque la première condamnation, les juges ont estimé que c'était entièrement la faute de l'anesthésiste, parce qu'en fait il n'avait pas rempli, il n'avait pas transfusé, je vous passe les détails, en gros il s'en était occupé en dépit du bon sens. Donc elle était morte au moment du retournement à la fin, des amorçages, hein, parce qu'elle était complètement exsangue, anémique et déshydratée. Et les magistrats disent, attendez, l'anesthésiste, il aurait pu s'en occuper, il est diplômé. Enfin non, il n'avait pas de diplôme d'anesthésiste. Mais à l'époque, ça se faisait. Alors, l'anesthésiste fait appel, évidemment, et en appel, les magistrats disent non, 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 c'est le chirurgien et l'anesthésiste. Alors, tout le monde va en cour de cassation, la cour de cassation dit non, 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 il faut casser, et finalement, donc, après, je vous dis, 7 années de débats, de discussions les plus acharnées les unes que les autres, donc finalement, c'est la cour de cassation qui a dit mais attendez, le chirurgien ne pouvait quand même pas ignorer, l'anesthésiste ne l'avait pas vu, ne la connaissait pas, n'avait pas ouvert le dossier, etc. Donc, vous êtes également coupable. Et pour la première fois, donc, il y a un arrêt qui précise que l'anesthésiste et le chirurgien forment une équipe indissociable. C'est-à-dire qu'ils ont été condamnés in solidum, hein, et non pas uniquement l'anesthésiste. Mais c'est vrai que ce jour-là, les anesthésistes ont acquis en quelque sorte leur maturité, hein. Ils sont devenus adultes, ils sont devenus responsables, parce que jusque-là, c'était le chirurgien. Donc, on endormait bien mal, peu importe. Mais pour la première fois, donc, un anesthésiste a été condamné. Et ça a été le début donc, de toute la jurisprudence. Et vous vous souvenez sûrement des dernières affaires, de l'affaire Bernerron à Poitiers, de l'affaire Farsa, qui a débouché sur une circulaire de M. Poniatowski sur les salles de réveil. Mais il faudra quand même attendre le 5 décembre 1994, c'était hier, pour qu'enfin un décret impose l'existence des salles de réveil dans tous les blocs opératoires de France. 1994, vous vous rendez compte le nombre d'années qu'il aura fallu pour qu'on s'aperçoive que c'était effectivement en phase de réveil. Et l'affaire Farsa, qui était une simple amygdalectomie, qu'on avait renvoyé dans sa chambre comme ça, le malheureux garçon, on l'a retrouvé mort dans son lit, alors qu'aujourd'hui, il est bien entendu strictement obligatoire de passer en salle de réveil, puisqu'on sait que c'est précisément au réveil. Et l'enquête de l'INSERM en 1980, donc à laquelle j'ai participé, démontrait que plus de la moitié des décès liés à l'anesthésie étaient liés précisément à cette période post-opératoire où avec les morphiniques puissants dont on dispose à l'heure actuelle, on est extrêmement dangereux. Moyennant quoi, les accidents étaient divisés par 10. Ce qui est quand même considérable. 1994, pour qu'enfin il y ait des salles de réveil dans nos hôpitaux en France. Dans les pays anglo-saxons, il y a longtemps que ça existait. Voilà, dernière diapositive donc pour, en guise de conclusion. 150 ans séparent ces deux images. Alors je suis désolé de parler de daguerréotype dans la ville de Nicéphore Niépce. Bon, mes puristes ne m'en voudront pas, mais c'est le premier daguerréotype d'une anesthésie que j'ai réussi à retrouver non sans mal. Le premier cliché d'une anesthésie, c'est qu'à l'époque on prenait des temps de pause extrêmement longs, donc ils ont l'air un petit peu immobiles. Mais vous avez donc Morton, Warren, etc. Donc c'est pas la première anesthésie, puisque ça, il n'y avait pas de photographe, mais compte tenu du développement après, elle doit dater de 1847, donc un an après la première anesthésie, vous avez ce premier daguerréotype. Et puis à droite, une situation d'aujourd'hui, avec ce qui fait aujourd'hui la sécurité de l'anesthésie, c'est-à-dire tous les moyens de surveillance dont on dispose. On peut surveiller l'oxygène, le gaz carbonique, maintenant, tout ceci étant informatisé, automatisé, et le médecin anesthésiste réanimateur donc est devenu un praticien qui a à sa disposition tous les moyens que vous connaissez les uns et les autres, donc qui servent à rendre cette discipline un peu plus sûre. Merci. Et je prête répondre à vos questions. S'il y a quelques questions.
Merci beaucoup. Donc,
vous vous êtes endormi
pour peu. Le contenu était très informatif, mais votre style et votre bagout, je vais utiliser le mot, je crois qu'il est d'un bon sens du terme. Donc, nous avons. Donc, les non-médecins peuvent, les patients, on appelle ça comme ça, les patients peuvent poser des questions.
On a tout dit? Non, on n'a pas tout dit. n'as pas tout dit.
Alors les médecins vont poser des questions parce que sinon on va être ridicule.
Non.
J'en posais une, parce que personne ne l'a posé. Est-ce qu'il y a encore des évolutions techniques
à venir?
En vision,
Oui, aussi bien d'ailleurs, c'est très curieux, hein, ce binôme de l'anesthésie gazeuse, donc qu'on appelle au masque, et de l'anesthésie intraveineuse, donc qu'on appelle la piqûre, en fait évolue parallèlement, c'est ça qui est tout à fait remarquable. En matière de gaz, on est actuellement en train de s'intéresser aux gaz rares, et entre autres à l'argon, qui a très probablement des propriétés très intéressantes au niveau cérébral et au niveau anesthésique. Il y a des travaux qui sont actuellement en cours sur ces gaz rares. L'avantage, c'est qu'ils perdent une grande partie de leur toxicité par rapport aux halogénés, donc qui est le produit scientifique, hein, des produits qu'on utilise, qui sont pas dénués de risques, là encore, qui n'ont pas une odeur bien agréable, c'est qu'on endort pratiquement la totalité des petits-enfants, les endort au gaz, hein, parce qu'on leur demande de respirer dans le ballon, enfin on a toute une technique, mais c'est vrai que c'est pas très agréable. Ceci étant dit, chez l'adulte, aujourd'hui j'ai des confrères qui commencent de nouveau à faire l'induction, ce qu'on appelle le début de l'anesthésie, en faisant inhaler un gaz anesthésiant. Donc on sent bien qu'il y a, en matière de gazeuse, il y a encore des portes, donc avec des gaz rares comme l'argon. Et puis en matière intraveineuse, alors ça s'est beaucoup élagué, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, on avait à notre disposition au moins une dizaine de produits qui faisaient perdre conscience, je ne parle pas de la douleur, hein. On avait au moins une dizaine de produits qui faisaient perdre conscience. Aujourd'hui, on n'en a guère plus que deux ou trois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des molécules nouvelles qui apparaissent, parce qu'une des dernières est extrêmement sûre, extrêmement rapide, ne laisse pratiquement aucune trace, puisque moi j'ai des patients, quand je l'utilisais presque pur pour des gestes assez courts, les gens qui disaient à la fin de l'acte, en se réveillant, alors quand est-ce qu'on commence, c'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument pas retenu que c'était fini. Voilà. Donc en matière intraveineuse, alors par contre, du côté des antalgiques, c'est-à-dire du côté des morphiniques, là, alors le champ est encore immense de molécules encore plus puissantes, encore plus rapides, encore plus sûres, parce que le gros inconvénient de tous les morphiniques et de tous les produits qu'on utilise en anesthésie, c'est les effets respiratoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore réussi à dissocier l'effet sur la douleur et l'effet sur la respiration. Hein, sans parler des autres effets des morphiniques, mais c'est vrai que probablement, disons, quand on supprime les effets respiratoires, on supprime les effets sur la douleur, donc on n'arrive pas à les dissocier. Donc sur la molécule, est-ce qu'on arrivera un jour à avoir la molécule idéale contre la douleur, qui n'a aucun inconvénient, c'est dans quel délai, je n'irai pas jusque là, mais c'est aussi probable. Donc aussi bien sur le gaz que sur l'analgésie et l'anesthésie, il y aura encore des choses.
Jean, vas-y.
Oui, je me souviens dans une maternité avoir vu une sage-femme utiliser une poche de gaz qui s'appelle tricleu.
Il y a combien d'années ?
Ça s'appelle tricleu.
Non, mais il y a combien d'années ?
Elle a survécu.
Il y a combien d'années ? Elle est virée, je ne sais pas.
Oui, je comprends. Non, parce que le tricleu aurait été une utilisé en anesthésie, mais pas depuis 1960-65.
C'est ça.
Oui, c'est peut-être ça.
Oui. Bon, vous pourriez peut-être parler des péridurales aussi.
Ah, ça, on change de... Voilà, alors c'est de l'anesthésie, oui, parce que je fais la première à Chalon-sur-Saône, donc en 74. Je fais la première péridurale, on passait la nuit à côté de la... Parce qu'à l'époque, on avait des produits qui agissaient très long, puis les obstétriciens nous disaient oulala, oulala. C'est une technique très sûre, encore que chaque fois que j'en ai fait chez une femme en train d'accoucher, je dis on n'est pas dans Marie-Claire parce que j'ai droit à la péridurale. Non, il y a des indications de la péridurale, il y a des incidents, des accidents de la péridurale, donc il faut que ça soit, que ça ait un intérêt obstétrical et pas seulement, même si seulement peut paraître un peu dur. C'est vrai que ça transforme complètement l'accouchement et les salles d'accouchement.
Mais d'une part, on va se heurter à la démographie des anesthésistes, parce que moi, si j'ai pris ma retraite derrière moi, la vague hein, des années 70, eh ben, elle va s'effondrer. C'est-à-dire que dans 10 ans, il y aura un quart d'anesthésistes en moins, et ça prend énormément de temps, le péridural, hein, parce qu'il faut être dans la maternité, il faut prendre la garde, etc. Donc, il y aura probablement des interdits, on aura trouvé autre chose. Hein. Rassurez vos filles et petites filles, hein, que bon, on peut, bon, même si c'est l'idéal, c'est vrai que la péridurale c'est remarquable, mais je suis pas sûr qu'on tienne le coup dans le futur. Mais bon.
Tout ce dont vous nous avez parlé avec nous, il s'agit de l'anesthésie générale. Maintenant, on fait des anesthésies locales. Quelle est la différence?
Mais c'est ce que je dis. Bon, depuis colère, depuis l'anesthésie à la cocaïne, depuis la rachianesthésie, on fait, comment vous dire, à peu près, ça dépend de la chirurgie. Dans toute la chirurgie abdominale, en dessous du nombril, on peut faire une rachianesthésie. En gros, c'est très curieux en consultation. Il y a la moitié des gens qui aiment mieux dormir et ne rien voir, puis l'autre moitié qui ne veut surtout pas dormir hein, et, voilà, et suivre les événements. Donc, quand on peut, on laisse le choix. Je parle de la chirurgie en dessous du nombril. Bon, au-dessus, ça devient plus difficile. Il y a des techniques d'anesthésie loco-régionale tout à fait remarquables, en particulier pour le bras, hein, et notamment en urgence. On sait très bien endormir un bras. Hein, avec un bloc ici ou là. Donc, ça, juste c'est le choix de la technique, il faut savoir bien faire, et puis le choix des patients. Mais ça se partage, je ne peux pas vous dire de chiffres entre loco régional et anesthésie générale, mais moi je dirais que c'est pas loin de 50-50. Non, c'est.
Mais les techniques sont différentes.
Ah, ça n'a rien à voir. Non, mais vous l'avez vu, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on injecte soit au contact du nerf, on endort le nerf. Donc voilà, donc on endort complètement le bras. Ah, ça n'a strictement rien à voir avec l'anesthésie générale, on est d'accord. Mais c'est une technique. Les chirurgiens dentistes, ils font.
Puis ces anesthésies peuvent être plus ou moins fortes, plus ou moins longues.
C'est une question de quantité, de dose, de produit, bien sûr, on module. Bien sûr, on peut faire une péridurale pendant 3 jours, hein, si on veut. Hein. Bon, il y a d'autres inconvénients, en fait. Tout à fait.
Une question d'un non médecin. Il semble qu'on donne maintenant un peu de pouvoir aux patients en termes d'anesthésie, puisque avec les cours par morphine, on peut doser, on peut faire doser par les patients le niveau d'anesthésie.
Tout à fait.
Comment ça va évoluer, comment ça se pratique,
Non, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de pédagogie et d'éducation, parce que ce que vous appelez donc l'auto-administration, ce qu'on appelle nous la PCA, c'est-à-dire la patient control, je m'excuse d'anglicisme. Mais la PCA, donc Patient Control Analgesia, c'est effectivement le patient lui-même qui s'administre l'antalgique. Avec des doses seuil, enfin bon, on a différents systèmes pour administrer, on va dire, un fond hein, d'antalgique, et puis on rajoute, quand le pic douloureux devient un petit peu trop important, on peut faire, mais ça demande d'abord un apprentissage. 2, une éducation. 3, une participation de l'équipe soignante, parce qu'il faut, il y a une échelle de la douleur hein, qu'on présente aux patients de 0 à 10. Donc il faut qu'ils comprennent aussi. Il y a des gens qui n'y arrivent pas à gérer tout ça. Hein. Il y a des gens qui en ont peur. Hein. Moi, le premier, j'ai été opéré il y a combien longtemps. Je ne m'en suis pas trop servi parce que je me disais, voilà, ça va me faire des trucs à l'intestin. Donc je m'en suis peu servi. Mais j'ai probablement tort. Mais vous voyez, même moi, je me suis mal servi. En me disant, mais enfin, appuie, bon. Bon, donc vous voyez qu'il y a aussi toute une mentalité, mais c'est bien sûr que c'est un droit, et puis ça ira probablement en se développant. Et les accouchements se font volontiers sous un mélange donc de protoxyde d'azote, vous voyez qu'on revient hein, à 1846. Au protoxyde d'azote, c'est un mélange équimoléculaire de proto et d'oxygène, qu'on appelle l'antonox ou le calinox, enfin, il y a différentes. En pédiatrie aussi, c'est utilisé. Et à ce moment-là, c'est la femme qui est en train d'accoucher qui l'inhale. Il n'y a aucun danger pour le bébé, ça, je veux dire, dans toutes les maternités, au lit de toutes les patientes en train d'accoucher, elles ont ça. Donc on leur dit, allez-y, elles respirent, elles sont mieux, elles ont moins mal, etc. etc. Puis ça oxygène le bébé au passage. Donc ça n'a que des avantages. Donc tout ce qui peut être géré par le patient lui-même, dans l'ensemble, je veux dire que ça ne peut que se développer, bien sûr. Non, non, c'est très bien. Non, allez-y.
Vous avez le patch qu'on va mettre maintenant.
Tout à fait, oui. Hein, le patch de morphine dans les douleurs chroniques. Hein, dans les douleurs chroniques, on peut mettre, c'est aussi très répandu, c'est vrai que je n'y pensais pas. Mais... C'est une technique, donc, c'est des petits patchs qu'on se met donc, sur la poitrine et qui délivrent une quantité donnée de substances morphiniques sur toute la journée. On le change à 24 heures, à 12 heures, enfin, suivant les circonstances. Et ça, ça vous donne une analgésie très confortable, puisque ça évite d'avoir des trucs à prendre, etc. Surtout, c'est régulier dans le temps. Parce que le gros problème de la douleur, c'est que si on dépasse un certain seuil, après, il faut le double de médicaments pour se soulager. Donc, l'idéal, c'est d'arriver voilà, à maintenir un seuil acceptable pour la douleur avec une dose minimum. Mais il faut en prendre. Hein, ce qu'on dit souvent, quand on dit quand vous avez mal, vous prenez, mettons, du dafalgan. Bon, non, il faut en prendre à 8h, à midi, à 6h, systématiquement. Et pas attendre d'avoir mal. Ou en tout cas que ça devienne insupportable. Hein. Parce que le seuil douloureux est très variable d'une personne à l'autre. Donc, là aussi, le patch est une bonne... Est un très gros progrès.
Bien, merci. Et donc, bonne fête à tout le monde et encore des applaudissements.
Si l'affaire vous intéresse, il y a des livres à la sortie.